Salut.
Salut.
C'est Champ Libre. J'aime beaucoup l'indicatif de mon émission. Pour les auditeurs qui ne sauraient pas qui joue, il s'agit d'un titre enregistré live en studio, en répète, par le groupe Big Star, le groupe d'Alex Chilton, qui est décédé il y a quelques années. Et j'en profite, tout en disant bonjour aux auditeurs de Champ Libre, pour leur dire qu'un double album de Big Star live, c'est le seul qui existe, est sorti cette semaine, ainsi qu'un DVD. C'est le seul film qu'on a de ce groupe magique sur scène. Voilà, en tout cas, c'est Champ Libre numéro 539 sur les ondes de Couleur FM, pas oublié de le préciser. Et c'est le Champ Libre mensuel, puisque vous savez que une fois par mois, le troisième mercredi du mois, j'allais dire lundi, troisième mercredi du mois, je reçois Carole qui nous présente un album.
Ou deux, bonsoir.
Ou deux, ah, ouais.
Ça dépend, ça dépasse.
Tu t'étales un peu là.
Oui.
Damien qui,
bonsoir.
Lui, nous parle de...
De métal aujourd'hui, hein, comme
tu
d'habitude.
Tu vas nous parler de quoi?
De thrash metal, précisément.
Thrash metal.
On verra ce que c'est après.
Alors, Johnny, notre ami Johnny, n'est pas là pour des raisons personnelles, donc il n'y aura pas de rubrique cinéma. On pense à lui quand même. Et Laurent, lui, est toujours là, à la technique, silencieux, et c'est pas plus mal pour vous. Voilà, il fait des grimaces. Mais ça, ça ne s'entend pas à la radio. On va commencer ce Champ Libre avec un album qui est sorti il y a deux, trois semaines. C'est un album de M. Thurston Moore. Alors, M. Thurston Moore, tu vois qui c'est, Carole?
Absolument pas.
Absolument
pas. Je suis venu exprès pour que tu
Damien.
Me dises.
C'est un ancien punk, si je ne me trompe pas.
Oh oui, sûrement, oui. Alors, M. Thurston Moore, c'est M. Kim Gordon. Et Kim Gordon, c'était la bassiste d'un groupe qui s'appelait Sonic Youth.
Ok.
Thurston Moore, c'était le guitariste de Sonic Youth. Le couple s'est séparé, donc le groupe a volé en éclats. C'est bien triste pour les fans dont je faisais partie. Sonic Youth, jeunesse Sonic, qui a également inventé ce qu'on appelle le noisy rock. C'est-à-dire que si on essaie de faire plus bruyant... jouer de la guitare avec une perceuse sur les cordes, enfin, choses comme ça, voilà, c'est eux qui ont expérimenté ces choses, ce qui ne les empêche pas de faire des morceaux mélodiques de temps en temps. Donc Sonic Youth n'existe plus, on était bien triste. La Miss, de son côté, a créé un groupe qui s'appelle Body Head, extrêmement punk, Damien, qu'il faudra peut-être écouter un jour. Et puis Thurston Moore, a formé son propre groupe avec son copain Lee Ranaldo, ex Sonic Youth, une fille à la basse qui vient de My Bloody Valentine ou de Primal Scream, c'est quand même pas n'importe qui. Et le groupe n'a pas de nom, il joue sous son nom, Monsieur Thurston Moore. L'album s'appelle The Best Day. C'est un disque dans lequel il raconte son enfance, ses parents. Il n'y a que des photos de ses parents et de son chien quand il était gamin sur la pochette. Voilà, un ancien punk nostalgique. Et la musique, bah, c'est du Sonic Youth. Je vous propose un titre qui s'appelle Detonation. Donc, ben voilà. Clandestinity. Go slow, sit in. Split, sabotage them, pick it.
my grenade.
Sir Stone Moore, Detonation, c'est le titre, The Best Day. Le titre de l'album, c'est une nouveauté, et ce titre est tout à fait dans la lignée des groupes post-punk. Je sais pas si vous connaissez les amis, là, des groupes qui s'appelaient Wire, The Fall. Voilà, ces groupes-là. On n'est pas si loin que ça des influences crottes.
Hein,
dans le,
tu le replaces
dans le côté cyclique et répétitif. Voilà des groupes qui. Bah, c'est ce que raconte un peu le. Comment il s'appelle l'ancien chanteur des Sex Pistols, monsieur.
John Lydon.
Oui, qui vient de sortir sa bio.
Oui, sa nouvelle.
Et dans laquelle il explique.
Il en avait fait une première déjà dans les années 90.
Et là, il vient de sortir une bio dans laquelle il explique qu'il est un grand fan de musique répétitive. Et qu'à la maison, il écoute du Crotte et Magma. Ça, ça m'a beaucoup amusé parce que Magma est un groupe franco-français, enfin cobayen. Et voilà, c'est assez amusant. Carole, ça t'a laissé quoi ?
Le titre Detonation, bonne impression. Après, sur la durée, j'ai pas écouté l'album en entier, je t'avouerai. J'ai écouté quelques titres. Effectivement, c'est New Sonic Youth. Sonic Youth, j'ai pas forcément toujours adhéré à ce qu'ils ont fait. Donc, c'est quelque chose que j'écoute, mais j'ai pas forcément.
Pourtant, c'était mettre... de ta génération, ça.
Ouais, mais ça empêche
avec
pas.
Nirvana.
Oui, mais je trouve qu'il y avait une meilleure recherche sur les groupes comme Nirvana ou d'autres. Ouais. Dans le côté grunge, eux, c'est un niveau au-dessus quand même, Sonic Youth. C'est pas.
C'est un niveau Sonic au-dessus.
Ouais, c'est un nouveau Sonic au-dessus.
Ouais.
Dans le
attends, aussi, hein. Ils ont à côté de la discographie officielle de Sonic Youth, il y a une discographie parallèle, une série d'albums expérimentaux. Donc les albums officiels de Sonic Youth sont écoutables d'après Sonic Youth.
Les
albums expérimentaux, écoutez. Et, bon, je vous ferai pas écouter ça tout de suite parce qu'on penserait que je sais pas l'émetteur de la radio est en train de rendre l'âme. Voilà.
C'est un peu comme Yoko Ono, quoi.
C'est une grande copine des mecs de Sonic Youth.
C'est
sur
pas
son
vrai.
Dernier album. Sur son dernier album, il y avait les mecs de Sonic Youth.
Comme c'est étonnant.
Eh oui. On va passer à un autre disque dont j'ai parlé la semaine dernière dans mon émission, mais j'étais seul. Donc, en fait, j'ai bien essayé de discuter avec moi-même, le pour, le contre, tout ça, mais ça reste un peu pauvre. J'aimerais bien que vous me disiez ce que vous en pensez. Je parle du dernier album de M. Neil Young, sans le Crazy Horse. L'album s'appelle Storytone. Et je racontais la semaine dernière que l'album peut être simple si vous l'achetez dans sa version 1 CD, avec des chansons hyper orchestrées, avec orchestre symphonique, enfin, orchestre de 80 musiciens, quelque chose d'assez lourd quand même. Et puis, si vous achetez la version double, vous avez en plus un disque dans lequel Neil est seul avec son piano, sa guitare, ou sa guitare électrique ou son harmonica. Moi, c'est marrant parce que c'est pas comme ça que j'aurais vendu le disque. J'aurais proposé le disque acoustique et ceux qui veulent la version orchestrale, je leur aurais filé la version orchestrale.
Est-ce que ça change ?
Ben, y en a qui vont acheter que la version orchestrale.
Mais pourquoi pas ? Après, Neil Young, avec tout le respect qu'on lui doit, c'est quand même quelqu'un qui a fait beaucoup d'exercices en acoustique. Donc, même si ses chansons restent toujours très belles, c'est du déjà entendu. Le fait qu'il intègre un orchestre symphonique derrière,
ah ouais.
Là, ça donne une autre dimension. Je pense que c'est bien.
Oui,
moi, je veux les choses comme ça. Neil Young, il sort quand même peut-être 3 albums par an. C'est hyper prolifique, donc... C'est bien aussi de varier les plaisirs et de ne pas sortir toujours les mêmes formats musicaux.
Le mec, en général, il fait ce qu'il a envie. Hein,
Ah oui.
Mais certains reprochent justement au disque orchestral de perdre un peu de l'âme.
Et c'est des puristes.
Pas sûr. Oui, peut-être. Tu l'as écouté, Damien?
Juste la chanson qu'on va écouter après le... Par contre, le reste, j'ai pas vraiment.
Le vilain, il n'avait pas révisé son chant libre.
Après, les autres albums, j'ai écouté.
C'est bien. On va quand même écouter un titre. La semaine dernière, j'ai passé le même titre orchestré, pas orchestré. Cette fois-ci, j'avais envie d'écouter un titre de l'album du côté brut de fonderie, c'est-à-dire Neil avec sa guitare électrique, et je crois qu'il y a un peu d'harmonica. Ça s'appelle I Want to Drive My Car. Lorsqu'on sait qu'il est un grand... lorsqu'on sait, non, c'est pas le même. Lorsqu'on sait qu'il est un grand fan de voitures, mais qu'il explique justement que la voiture c'est fini, si on veut sauver la planète, il faudrait peut-être arrêter. La chanson devient intéressante. Neil Young. Neil Young, notre père à tous. Neil Young qui, oui, c'est quand même le troisième album de l'année. Hein. Bon, y compris un double. Alors, le monsieur a découvert que, bah, que le temps passait, qu'il avait intérêt à speeder s'il voulait faire tout ce qu'il avait envie de faire. Il a eu un grave problème de santé il y a quelques années, un anévrisme. Je pense que ça l'a secoué un peu. Il avait arrêté de fumer, en particulier des cigarettes qui font rire. Et là, il s'est remis.
Pour l'inspiration.
Ouais, puis il pense que de toute façon, c'est pas foutu ça qui le tuera. Ouais. Voilà, c'est un vieil indien, donc l'esprit vient aussi à travers la fumée. C'est un vieil indien. Il a 69 ans, Neil Young. Carole...
Je crois qu'il en est 67. Enfin, tu sais mieux que moi, mais je pensais qu'il était un poil plus jeune.
Non, 69.
Taïmet, ben, tu te dépêches.
T'en passe. Hein. Carole, c'est à toi.
C'est vrai, déjà, on ne voit pas le temps passer, effectivement. Donc, je vais vous présenter deux albums ce soir. Moi, je commence par le Massey Gray qui est sorti au mi-octobre, quand même, il y a un petit peu de temps. Mais je ne voulais pas forcément passer à côté. Donc, à savoir qu'après des années d'errance artistique, ponctué par la sortie de deux albums de reprise, la diva de l'Ohio est de retour avec un véritable album de 10 titres, Made in Macy. Son premier album, sorti en 1999, avait donné un souffle nouveau à un courant artistique bloqué dans les années 70, mêlant soul, jazz, R&B. On How Life Is fut un immense succès, en particulier grâce au titre I Try, tube mondial qui lui a valu un Grammy Awards. La suite des événements n'a pas été aussi glorieuse car la belle a été victime de quelques coups du sort. En 2001, invitée à chanter à une manifestation de la Ligue de football américain qui se tient dans sa ville natale, elle oublie les paroles de l'hymne national et qu'elle devait interpréter et s'enfuit de scène sous les huées. En septembre de la même année, son deuxième album, The A.D., sort la semaine suivant les attentats du World Trade Center. Tragique, l'Amérique étant sous le choc, l'album passe complètement inaperçu et ne rencontre pas le succès espéré. Trois albums suivront cet échec commercial, ce qui permet à Messi de rester dans le paysage musical sans pour autant occuper la place qu'elle souhaiterait tenir. Elle se cramponne tant qu'elle peut en sortant coup sur coup deux albums de reprise, dont un consacré entièrement à Stevie Wonder, ce dernier récupérant au passage une bonne critique presse. C'est donc en puisant à la source et en se réappropriant ses influences que Macy Gray se recentre, se concentre et fait un travail d'introspection pour, au final, sortir un album explosif, généreux, parfois intime et surtout spontané. L'album My Way s'ouvre sur Stone, titre tout en douceur où la voix éraillée de Macy évoque sa dépendance à la fumette. Elle nous fait part de ses voyages oniriques avec beaucoup de poésie et d'humilité. Cette introduction nébuleuse laisse place au percutant Bang Bang, exercice définitivement rock, laissant la part belle aux guitares saturées et lignes de basse so groovy. Hands vient rafraîchir l'atmosphère et nous prouve que Macy Gray reste la reine des titres funky qui vous colle spontanément la bougeotte avec son refrain entêtant et qui rendrait la joie de vivre à votre voisin dépressif. Les thèmes de prédilection sont en rendez-vous avec Miss the Sex, où la voix de Macy se pose tel un râle sur les rythmes afrobeat. L'amour, l'indépendance des femmes, l'adversité et l'amour propre sont les sujets abordés tout au long de cet album. The Way, le titre éponyme, est sans doute le plus intimiste, puisqu'elle raconte le chemin parcouru et celui qui lui reste à affronter. Elle évoque la drogue et le manque d'inspiration depuis qu'elle a décroché, rend hommage à Frank Sinatra en voulant faire la chose à sa manière et souhaite se rattraper auprès de ceux qu'elle a déçus. Ce n'est pas innocent si cet album est une évolution personnelle pour la chanteuse qui a déclaré récemment, ouvrez guillemets, « Je voulais créer un opus qui reflète qui je suis devenue comme femme, mère et artiste. Cet album est très personnel pour moi, je veux que mes fans comprennent où j'en suis dans ma vie aujourd'hui. » Fermons les guillemets. The Way marque le grand retour de Macy Gray. Ce n'en est aucun cas une révolution, mais simplement un album digne de ses débuts. On éprouve beaucoup de plaisir à écouter ce disque qui séduit sans racoler. On se laisse convaincre par cette voix hors du commun qu'au bout du compte, comme le dernier titre l'indique, « Life is beautiful », la magie Macy opère à nouveau. Et on va s'écouter tout de suite le single de l'album « Bang Bang ».
Sometimes you gotta dig in the dirty to get what you need. What I need is you. Oh, and I'm going all out to be with you. Yeah.
Bang Bang, Macy Gray, l'album The Wave, c'est le premier album présenté par Carole ce soir. Sympa, c'est des rapages vers des styles différents là au milieu du morceau. Surprenant, j'aime bien les breaks en général dans les morceaux rock, mais là c'est carrément un dérapage vers
c'est
autre chose.
C'est café, on va dire qu'il y a une bonne structure sur ce titre.
Moi, j'ai trouvé des choses intéressantes sur l'album de Macy Gray. Il y a des titres arrangés par Monsieur Booker T quand même.
Oui, c'est vrai qu'elle est bien entourée, effectivement.
C'est pas n'importe qui. La trompette, Maurice Brown, c'est quand même pas n'importe qui non plus. Et puis, j'ai trouvé une critique de l'album, je ne sais plus trop où.
Ouais.
Dans les Arts Rock, je vous lis parce que je trouvais ça intéressant. Quand elle était petite, Macy Gray préfère Esther. Ses camarades se moquaient d'elle lorsqu'elle ouvrait la bouche. Elle avait des problèmes d'élocution. Donc, du coup, elle gardait sa voix à l'intérieur. C'est assez intéressant. Ils disent, du coup, elle est devenue une bonne copine de Shrek ou de Edouard aux mains d'argent. C'était un beautiful freak, monstre merveilleux. Voilà, je trouve que c'est assez chouette. Puis la musique, ça lui a permis de faire tout ça.
Elle a commencé tard quand même, hein. Je crois que son premier succès, elle est pas loin de la cinquantaine.
Elle a 48 ans.
Ouais, son premier succès, elle a eu, je crois que c'était une trentaine d'années, une petite trentaine.
Mm-hmm. Alors, apparemment, elle dit j'ai arrêté les machins dangereux. Et voilà. Alors, elle a un peu des abus concernant les relations humaines, d'après ce que j'ai pu comprendre.
Ouais,
c'est des
thèmes qu'elle a longtemps abordés sur tous ses albums de Macy Gray. Il y a toujours eu les hommes, l'amour, ce genre de choses. On sent que c'est quelqu'un de généreux dans sa voix, dans sa façon d'être.
Ça ne doit pas toujours être ça.
Ça n'a pas toujours marché. Donc voilà, comme je pense.
Damien, tu l'as écouté le titre? Tu viens de l'écouter là déjà.
Oui, je trouvais que c'était assez sympa. Des instruments rock, mais comme une voix assez soul.
Ouais.
Donc c'est original, ça fait du bien à écouter, je trouve.
D'accord.
C'est vrai qu'elle a un timbre de voix. Elle a un timbre de voix particulier. La première fois que j'ai écouté cet album, ça a commencé par Stoned. Effectivement, on a l'impression d'avoir un chat asthmatique qui commence
elle a fumé beaucoup.
On sent que la voix a pris cher. Mais après, ça s'arrange quand même très bien sur le reste de l'album. Mais quand même une très belle voix.
Une voix, la Leonard Cohen.
Ou la Bob Dylan. On n'ira pas jusque-là.
Avant de te donner le micro pour ta deuxième rubrique, la chronique des Arts Rock se terminait par, concernant l'album de Macy Gray, de la musique pour danser le nombril à l'air quand on a le cœur en vrac et les jambes en coton. C'est sympa, ça, quand même.
Oui, c'est une belle définition.
Rubrique numéro 2.
Alors là, on va s'attaquer à du lourd.
Ah.
Le 8e et très attendu album des Foo Fighters est sorti le 10 novembre, ce qui est une très bonne nouvelle parce que c'est souvent l'anniversaire de quelqu'un que j'aime beaucoup. Sauf que là, c'est surtout la date qui marque le début d'une longue série de questions, à savoir, est-ce bien cela le dernier album de la bande à Dave ? Est-ce la BO du dernier film pour ados à la mode ? Ou pourquoi tant de clichés rock US ? Les fans de la première heure clament leur déception à qui veut bien l'entendre. Pourtant, le pitch de base de l'album avait de quoi les séduire. 8 chansons enregistrées dans 8 grandes villes américaines. Austin, Chicago, Los Angeles, Nashville, New Orleans, New York, Seattle, Washington. De quoi faire rêver les plus grands. Dans 8 studios mythiques, pour ceux qui connaissent. Et ceci en compagnie de la crème des icônes américains, toujours pour ceux qui connaissent. Donc Gary Clark Jr., Rick Nielsen de Cheap Trick ou encore Joe Walsh, le guitariste des Eagles. Un plan marketing bien ficelé. Puisqu'une mini-série de 8 épisodes retraçant l'enregistrement de l'album a été diffusée sur la chaîne américaine HBO depuis mi-octobre, histoire de faire monter la pression. N'étant pas une inconditionnelle des Foo Fighters, j'ai tout de même suivi le truc d'un œil et d'une oreille distraite, sachant que la sortie d'un album des Diables de Seattle est toujours un événement. À la première écoute de ce tant attendu nouvel album, je n'ai pas pu m'empêcher de penser « tout ça pour ça ». Certes, la technique est là, Dave Grohl est très bien entouré et on sent qu'il se fait plaisir. Dave crie, Dave sue, ça joue comme des dieux, la section rythmique est irréprochable. L'ouverture de l'album par Something for Nothing est prometteuse. La suite se trouve être un mélange de titres calqués sur les précédents albums, mais arrangés à la sauce rock à papa. Comme si les Foo Fighters souhaitaient ardemment prendre la route 66, mais sans oser le dire au public de la première heure. Guy me regarde et me flingue. Ce Sonic Highway est une extension du projet Sound City, une ode au rock US. Il n'a malheureusement pas la saveur ni la spontanéité des premiers Foo Fighters connus pour leur rock potache et sans prétention. Dave et sa bande souffrent désormais du syndrome des stades puisqu'à l'instar des Kings of Leons, ils donnent cette fâcheuse impression de composer un album spécialement pour faire la tournée des grosses structures. Alors après l'enregistrement dans 8 studios de légende, on attend la liste des 8 stades qui auront l'immense plaisir d'accueillir Dave et sa bande. On écoute tout de suite Something for Nothing, donc l'extrait de Sonic Highways des Foo Fighters.
I threw me all away because I had to be what never was.
Foo Fighters, Something from Nothing. L'album s'appelle Sonic Highway, c'est le nouvel album donc des Foo Fighters que Carole vient de chroniquer juste avant. Damien.
Ben moi je suis pas spécialement d'accord avec ce que Carole a dit. Je trouve que ça restait quand même un assez bon album. Je connais pas très très bien les Foo Fighters, mais je connais quand même globalement et ça me semble un album dans la droite ligne de ce qu'ils ont fait avant. Bon, je trouve que c'est la même chose, mais en même temps c'est bien ce qu'ils font, donc c'est loin d'être une déception.
Alors fais gaffe parce qu'elle peut mordre. Je suis assez d'accord avec toi, Damien. On est deux. Tiens, je suis assez d'accord avec toi. Je pense que ce nouvel album ce nouvel album des Foo Fighters, ça doit pas être un album de Nirvana. Je pense que Dave Grohl, justement, il en a marre d'être l'ancien de Nirvana. Et ce qu'il a essayé de faire, et c'est ce qui est intéressant dans le reportage qui va avec. Ce qu'il a essayé de faire, c'est de montrer que dans chacune des grandes villes qu'il parcourt aux États-Unis, les musiques sont différentes parce qu'elles reflètent des vies et des vécus différents. C'est une histoire de la musique américaine qu'on essaie de faire en tournant...
Je ne dis pas le contraire. C'est un beau projet.
Lorsque tu disais que c'est la Highway 61, oui, tout à fait.
Ouais.
C'est prendre la route pour essayer de montrer ce que c'est. C'est assez amusant parce que moi, je vais vous parler de quelque chose tout à l'heure qui va exactement dans ce sens-là.
Je dis juste qu'il aurait peut-être dû continuer. C'est un beau projet, mais il n'aurait pas forcément dû le faire sous les Foo Fighters. Il aurait dû continuer dans sa ligne de projet parallèle et présenter ça. Je pense que ça aurait été mieux reçu, parce que tu balances pas un single pareil pour après avoir une suite d'albums un peu plus plan-plan. Le dernier titre est très bon, mais après,
En même temps, il a quel âge ?
Mais c'est pas une question d'âge, je pense à ce moment-là...
Peut mûrir quand même.
Bien sûr, tu peux mûrir.
On est plus grunge à 43.
Mais à ce moment-là, étant donné qu'il a fait de beaux projets en parallèle Smashing Pumpkins, n'importe quoi, des Foo Fighters, autant laisser les Foo Fighters leur dire au revoir avant qu'il ne soit trop tard et continuer après ses projets qui sont très bons d'ailleurs, en parallèle.
Voilà, du coup, elle en perd sa voix.
C'est l'émotion.
C'est le chat qui se venge. écoutez, on laisse les auditeurs faire un avis. On ne fera pas de vote. On faisait ça il y a quelques années, il y avait un vote. Mais bon.
Ouais, c'est vrai, c'était drôle.
Voilà, Sonic Highways, Foo Fighters, bon disque. Hein. Alors, qui décevra peut-être certains fans, oui, des tout premiers Foo Fighters, qui effectivement étaient beaucoup plus proches de Nirvana. Mmh. Voilà. C'est l'heure du métal.
On va parler de thrash metal cette fois-ci, un genre qui est, à mon avis, tout aussi connu que le heavy metal.
Et puis c'est pas prouvé ça, parce que la plupart des auditeurs s'y perdent un peu hein, dans toutes les.
Eh bien, justement, on va clarifier tout ça. Et puis, on parlera un peu aussi de l'annonce du Hellfest 2015.
Encore ?
Qui est paru lundi. Oui, encore, désolé, mais bon. Et tout de suite, on va écouter un titre de Anthrax qui s'appelle Got the Time. Bye.
Cut Time Anthrax.
Voilà, de Anthrax. Le thrash metal, donc, qu'est-ce que c'est ? Alors, si le heavy metal a pris ses racines dans, en Angleterre, le thrash metal, c'est typiquement américain. Ça vient surtout de Californie, pour la plupart des groupes, sauf Anthrax qu'on vient d'écouter, qui est un groupe de l'état de New York. Ça a été créé au début des années 80, 81, 82, 83. Notamment les quatre groupes de thrash metal les plus connus, qui sont surnommés le Big Four of Thrash Metal. Et ces groupes, ce sont donc Metallica, Megadeth, Slayer et Anthrax.
D'accord.
Donc, The Big Four, parce que c'est les plus connus, ça a été les premiers à... C'est en quelque sorte des pionniers. Le thrash metal se distingue par un son plus lourd, plus rapide. On a pu l'entendre avec le titre qui vient de passer, c'était très très rapide.
C'est presque punk.
Ouais, on peut dire ça, ouais. Avec des... Donc, la basse est assez saturée, il n'y a pas de clavier comme dans certains genres du metal. C'est totalement exclu. Et puis on a des paroles souvent assez sombres, hein. Par exemple, Metallica parle de drogue, des sectes aussi. Y a aussi une chanson de Slayer qui a été très, très controversée à propos du docteur Mengele, un docteur nazi.
On les accusait.
Et donc ils ont été accusés de nazisme par rapport à cette chanson. Et donc ils se sont défendus en disant qu'ils ne faisaient que décrire les actes du docteur Mengele sans émettre de jugement parce qu'il n'y avait pas besoin tant ces actes étaient horribles. Donc voilà, c'est un petit aperçu d'à quel point les paroles peuvent...
Ce type de procès, il y a plein d'autres groupes.
Ah oui, il y en a eu énormément.
Blue Oyster Cult,
voilà.
Génération précédente a eu droit à ce type de procès.
Pareil pour Ozzy Osbourne, qui avait été accusé d'avoir poussé au suicide un adolescent avec sa chanson Suicide Solution. Mais bon, c'est un autre débat. Et puis, donc, il y a eu un très fort engouement pour le thrash metal donc dans les années 80. Puis, dans les années 90, beaucoup de groupes ont été accusés de se tourner vers une carrière plus commerciale. Donc de continuer à faire de la musique uniquement pour l'argent et pas par intégrité musicale. Donc c'était le cas notamment pour Metallica. En 91, ils ont sorti le Black Album, qui a été très controversé. Pour la plupart des fans purs et durs, c'est l'album de la déchéance, et depuis Metallica n'existe plus pour eux. Seuls les quatre premiers albums sont des vrais Metallica. Après, c'est un avis de puriste. Hein.
Il y en a même dans le thrash metal.
Ouais. Oui, il y a les puristes partout. Hein.
Pas que chez Neil Young.
Et puis, mais les quatre groupes du Big Four sont toujours présents. Hein, ils vendent toujours des disques. On a quand même quelques nouveaux groupes. Hein, il ne faut pas non plus que les premiers soient toujours là pour monopoliser le marché. On peut citer par exemple Annihilator et Machine Head, qui sont les deux leaders du genre actuellement. Voilà en ce qui concerne le thrash metal. On parlait de Anthrax, eh bien ils sont à l'affiche du Hellfest 2015.
D'accord. Donc t'as pris tes billets, ça y est, c'est bon ?
Non, bon. Cette année...
Bon.
Donc c'est le Hellfest, c'est 10 ans cette année, promettait une affiche assez grandiose. Et qui au final a déçu plus d'un. Lundi, c'était l'annonce, et beaucoup ont crié au scandale en disant que c'était très décevant et que quand on a eu Iron Maiden et Black Sabbath l'année précédente, on ne peut pas se permettre d'avoir de si petits groupes, entre guillemets. Ouais. Parce qu'il y a quand même quelques mastodontes. On pourra citer par exemple Scorpion, Slash, Motorhead, Alice Cooper, ZZ Top, Anthrax donc. Judas Priest, donc ça c'est pour les anciens, et puis aussi beaucoup de groupes des années 90 comme Slipknot, Faith No More, Korn et Limp Bizkit, et aussi Marilyn Manson.
Limp Bizkit, voilà. Dans le fest.
Donc,
pardon,
ceux qui étaient ados dans les années 90 seront heureux.
D'accord. Mais oui, c'est pas le Hellfest de l'année dernière.
Non, 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 assez moins glorieux, on peut dire. Avec notamment aussi la présence
des... C'est même le racoleur, au final.
Mmh. Ouais,
D'ailleurs, des histoires de...
Limbiskit, c'est vraiment le dernier endroit où je pensais qu'ils allaient revivre.
Ah, carrément.
Pour se remettre, on va écouter un titre de
Megadeth, ouais, un des membres du Big Four. Le titre s'appelle Lucretia et il est issu de l'album légendaire de Megadeth, Rest in Peace.
Ah, d'accord.
D'écouter à l'instant Lucretia, donc le titre choisi par Damien, donc c'était Megadeth. J'en connais un qui bouillonne derrière son micro. Alors Guy, qu'est-ce qui était si important? Qu'est-ce que tu voulais nous présenter ce soir?
Moi j'aurais pu vous parler d'un coffret de disques, mais en fait je voulais vous parler d'un livre. D'habitude je présente un livre dans cette rubrique. Donc effectivement j'aurais pu vous parler d'un coffret. Tu connais Bob Dylan, Carole?
Oui, il se peut, oui.
Alors, tu sais que Bob Dylan, au milieu des années 60, c'est vraiment une star immense. Il a enregistré plein de disques qui cartonnent. Il a fait des tournées dans le monde entier pour tenir le coup, je te dis pas, tout ce qu'il avale, tout ce qui s'enfile dans le nez, etc. Le mec, il est à la limite de ce qu'on appelle le burn-out aujourd'hui. Et un jour, quelque part, autour de chez lui, là, du côté de Woodstock, il a, paraît-il, un accident de moto et il va disparaître des écrans radar. Alors, à l'époque, on dit qu'il est mort, il est paraplégique, il ne chantera plus jamais, etc. Est-ce que l'accident de moto est réel? Est-ce qu'il était simulé? Est-ce qu'il y a réellement eu un accident de moto et que ça provoquait un déclic? Ça, on ne le saura jamais. En tout cas, Dylan, pendant ces périodes-là, s'enferme dans sa maison avec son groupe d'accompagnateurs, des Canadiens qui s'appellent The Hawks. Et ces accompagnateurs sont salariés, sont des gens qui sont payés. Donc, s'ils veulent être payés, il faut qu'ils viennent à côté de Dylan pour pouvoir travailler avec lui. Donc, ils se déplacent, ils achètent une maison à côté de celle de Dylan. C'est une grosse maison rose qui s'appelle The Big Pink. Et ils installent un studio au sous-sol avec un magnétophone à bande. Et avec l'ami Dylan, ils vont faire n'importe quoi. Dylan décide de ne plus chanter sur scène, mais il a des chansons, donc il les chante, ça fera des maquettes qu'on vendra à d'autres groupes ou artistes. Et puis de temps en temps, il s'amuse à chanter le hit parade de l'époque ou le hit parade de ses grands-parents. Et pourquoi pas chanter les vieilles chansons traditionnelles américaines à l'époque où l'Amérique était sinistre, sombre, mormone, avec des prédicateurs hallucinés, des medicine men qui vendaient un peu n'importe quoi. Voilà, c'est ce qu'ils vont faire ces gens-là entre juin et octobre 67. Les bandes en question vont devenir mythiques. Le premier pirate de l'histoire du rock va sortir, ça s'appelle The White Album, The Great White Wonder, voilà. En 73, la maison de disques et Dylan acceptent de sortir un double vinyle, donc un extrait de ces bandes enregistrées dans le sous-sol. Ça s'appellera les Basement Tapes. Et puis, depuis, plus rien. À part qu'une rumeur court, il y a certainement une centaine de titres qui ont été enregistrés dans le basement, au sous-sol. Voilà, j'aurais pu vous parler de ça, mais je voulais vous parler d'un livre. Donc je me suis dit, de quoi je vais leur parler? Je vais leur parler du livre de Grell Marcus. Grell Marcus, c'est un grand écrivain, c'est un universitaire américain. Cet universitaire a écrit des tonnes d'articles dans Rolling Stone également. Et il vient de sortir un livre qui s'appelle The Doors, 5 ans en enfer. Et puis d'un seul coup, je me suis dit, mais attends, en 1997 19. Ou 18. Grell Marcus a sorti un livre qui s'appelle toujours La République invisible. Et de quoi qui parle ce livre, Carole? De Bob Dylan, de son passage à l'électricité et des Basement Tapes. Et monsieur Grell Marcus, il raconte quoi? Il raconte que les Basement Tapes, c'est l'histoire de l'Amérique, un peu comme l'album des Foo Fighters, sauf que à l'époque c'était pas prévu. Et que si on écoute bien toutes les chansons qui ont été enregistrées et qui viennent de sortir ce mois-ci sous la forme de magnifiques coffrets, on a l'histoire de l'Amérique depuis ses origines sombres, la conquête de l'Ouest, jusqu'à aujourd'hui. À l'époque, dans les années 60, il y a des changements très très importants qui sont en train de se passer sur le plan social, politique, économique aux États-Unis. On dit que le dragon est en train de bouger sous la surface de la société américaine. Bob Dylan, c'est pas celui qui a été le porte-parole du mouvement, c'est simplement quelqu'un qui a su chevaucher le dragon, c'est-à-dire guider la chose pour arriver à cette révolution du milieu des années 60, le mouvement hippie, etc. Là, tu parlais du droit des femmes tout à l'heure, les droits des noirs également, etc., etc. Voilà, c'est ce que raconte Grell Marcus. Pour lui, les Basement Tapes, c'est la création d'une nouvelle république américaine. Et ce disque-là, il faut l'écouter comme ça. Et je jubilais tout à l'heure lorsque l'on parlait du Foo Fighters, parce que je pense que c'est la même chose. Il est tout à fait dans la lignée. De temps en temps, il y a des disques comme ça qui racontent beaucoup plus que de la musique. C'est pas toujours volontaire. La preuve, l'album des Sex Pistols, a été un véritable choc. L'album de Nirvana a été un véritable choc. Je pense que les musiciens à l'époque, ils ne savaient pas ce qu'ils faisaient. Voilà, donc lisez le bouquin de Grell Marcus. Et je ne sais pas s'il est sorti en poche, en tout cas on le trouve chez De Noël. Ça s'appelle Grell Marcus, La République Invisible, Bob Dylan et Amérique Clandestine. C'est pas n'importe qui, Grell Marcus, donc c'est pas toujours simple à lire. Et puis, comme c'est pas fini.
C'est pas fini.
Comme c'est pas fini, Monsieur Bob Dylan, à cette époque-là, a laissé de côté des dizaines de chansons écrites, des textes, mais pas enregistrées. Et un producteur qui s'appelle T-Bone Burnett, c'est pas n'importe qui, a demandé à Dylan si on pouvait faire quelque chose de ses textes. Il a accepté, le vieux. Et un groupe a été constitué qui s'appelle The New Basement Tapes, dans lequel il y a Elvis Costello, Jim James de My Morning Jacket, Marcus Mumford de Mumford & Son. Et le groupe donc s'appelle The New Basement Tapes. Et ils viennent de sortir un album avec une vingtaine de titres. Lost on the River, c'est les chansons qui ont été oubliées par Bob Dylan à cette époque-là et qui viennent d'être enregistrées à raison de deux par artiste. On va écouter un titre.
You're late, my friends.
Du Lost on the River. Merci Damien pour la rubrique.
Il n'y a pas de quoi.
Trash Metal, on se retrouve le mois prochain. Le mois prochain, c'est le mois de décembre, alors il y aura une émission spéciale Papa Noël. Merci Carole.
Je t'en prie. C'est dommage qu'on n'ait pas eu plus de temps parce qu'on aurait débattre avec toi de
parler du Foo Fighters. pour les auditeurs de champ libre, vous ne passerez pas à travers le coffret Basement Tapes. Hein, c'est pour la semaine prochaine. Merci Laurent pour la technique et on écoute un titre de The New Basement Tapes. C'est Elvis Costello qui chante. le titre est Heidi Heidi-O, version 11. Et l'album s'appelle Lost on the River.
Bonne soirée.
How could she reject me? Send me on my way. How could she suspect of leading her astray? I met her accidentally, and I asked to see her home. She told me she wouldn't mind. It's wrong. Hide it home.
At home.